ce que t'en dis. Avec mes mots, m'accordes-tu autant de crédit? Quand les a priori brisent des vies, crèvent les yeux au bal de l'hypocrisie. Dois-je vendre mon âme pour faire partie de la patrie? Sans fratrie, sans flatterie, ni gâterie. Moi qui suis né ici, alors que je n'ai rien demandé, je reste le fruit d'une alliance ethnique. Quand règle la mécanique, de quoi rendre le FM hystérique?
À Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mellard.
Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, Paul, deux discours radicalement différents à propos de la guerre au Moyen-Orient.
Et Donald Trump jure que des discussions sont en cours avec l'Iran. Faux, rétorque Téhéran, qui déclare vouloir résister et menace même d'ouvrir un nouveau front en mer Rouge en cas d'invasion terrestre américaine. Les regards se tournent peu à peu vers les rebelles yéménites, outils alliés de l'Iran, mais restés hors du conflit pour l'instant. Témoignages exceptionnels à suivre de yéménites inquiets d'être happés dans cette guerre. À la une aussi, la déception des habitants de Port-au-Prince, alors que les soldats kényans de la force multinationale anti-gang commencent à se retirer d'Haïti. Yaoundé, au Cameroun, qui accueille une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à compter d'aujourd'hui. Et puis en fin de journal, une aventure tropicale transatlantique avec le jazz franco-colombien de Combo Effectivo.
Les Iraniens chargés de négocier avec les États-Unis craignent d'être tués par les leurs.
Et c'est pour ça qu'ils nient des tractations pourtant bien réelles. C'est en tout cas le point de vue exprimé par Donald Trump devant des parlementaires républicains à Washington cette nuit. Pourtant, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a répété que son pays n'avait pas l'intention de négocier, mais plutôt de continuer à résister. Alors que des informations de presse évoquaient un plan de paix américain transmis à Téhéran, la porte-parole de la Maison Blanche, elle, a démenti hier une grande partie des rumeurs sur les contacts avec le régime iranien, Vincent Sorio.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, assure qu'il y a bien un canal de discussion entre l'Iran et les États-Unis. En revanche, elle ne confirme pas la véracité du plan présenté comme une proposition américaine et relayé par plusieurs organes de presse.
J'encouragerais les journalistes présents dans cette pièce à ne pas relater de plans spéculatifs issus de sources anonymes. La Maison-Blanche n'a jamais confirmé la totalité de ce plan. Certains éléments peuvent être exacts, mais plusieurs des articles que j'ai lus ne sont pas totalement factuel.
Même prudence lorsqu'il s'agit d'éventuels pourparlers. La rumeur la plus insistante les situe dès cette semaine au Pakistan. Mais à ce stade, Caroline Leavitt balaye cette hypothèse.
Là aussi, il y a beaucoup de spéculations à propos de discussions potentielles qui pourraient avoir lieu dans la semaine. Rien ne peut être considéré comme officiel sans annonce formelle de la Maison Blanche. Je ne me précipiterai pas pour parler d'une quelconque rencontre cette semaine, à moins que cela vienne directement de nous.
Caroline Leavitt termine par une menace. Donald Trump ne bluffe pas, dit-elle. Si le régime iranien ne réalise pas qu'il a perdu militairement et qu'il doit transiger, les frappes vont s'intensifier comme jamais auparavant. Vincent Souriau, Washington RFI.
Les États-Unis et l'Iran qui ont émis des signaux en faveur de négociations, ça c'est ce que déclare le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi cette nuit. C'était lors d'un entretien avec son homologue égyptien. Si des échanges ont potentiellement lieu, l'Iran a aussi averti que les troupes américaines se préparaient à occuper une île. Cela pourrait être l'île de Karg, par laquelle transitent 90% des exportations de brut iranien, selon des médias américains. En cas d'invasion, nous ouvrirons d'autres fronts en mer Rouge, a prévenu Mohammad Bakir Kalibaf, le président du Parlement iranien, hier. Est difficile donc de ne pas penser à l'implication des rebelles yéménites houthis, alliés de Téhéran, qui sommeillent pour l'instant dans ce conflit au Moyen-Orient. Au sein de la population yéménite, la crainte de basculer dans un nouveau conflit est grande, Noé Pignède.
Après 12 ans d'une guerre civile qui a ravagé le pays et plongé 80% de la population sous le seuil de pauvreté, la trêve reste fragile entre les rebelles et le gouvernement d'Aden, Yazan via Avamar, au cœur du territoire contrôlé par les Houthis.
La population, ma famille, mes proches, ne peuvent pas survivre. Pas de travail, la nourriture, l'absence de soins. Imaginez aujourd'hui une nouvelle guerre, cela veut dire préparez-vous pour partir en enfer.
Après le 7 octobre 2023 déjà, les Houthis avaient ouvert un front de soutien à leurs alliés du Hamas. Sous le patronage de l'Iran, ils avaient bombardé des navires en mer Rouge. La réplique américano-britannique avait fait une centaine de morts et détruit de nombreuses infrastructures au Yémen. Rachid Abid Sanaa, la capitale.
Les gens sont encore en train de se reconstruire et de réparer les dommages causés par la guerre.
Mais le jeune homme en est persuadé, les Houthis finiront par être entraînés dans l'escalade régionale.
À un moment, ils vont être obligés de soutenir l'Iran. Pour l'instant, ils se préparent. Ils attendent le bon moment pour s'engager. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur pour ma famille.
En entrant en guerre, Sanaa pourrait à nouveau interrompre le trafic maritime en mer Rouge. Une entrave de plus au commerce international, déjà paralysé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz.
Noé Pignède et le détroit d'Ormuz qui ne reste fermé qu'aux ennemis. Un passage sécurisé aux navires de pays amis a été accordé par l'armée iranienne, c'est ce qu'a assuré Téhéran hier. Israël, de son côté, ne montre aucune intention d'arrêter la guerre. Des frappes à grande échelle ont été menées sur plusieurs régions iraniennes cette nuit, notamment à Ispahan, dans le centre du pays, selon l'armée israélienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi affirmé hier que ses troupes élargissaient la zone tampon entre son pays et le sud du Liban pour combattre le Hezbollah, alors que le gouvernement libanais appelle à des négociations avec Israël. Le groupe chiite, lui, refuse toute discussion sous le feu de l'État hébreu.
Pour certains Haïtiens, la force multinationale déployée pour faire face aux gangs n'a pas eu les résultats escomptés.
Alors que ces troupes ont commencé à se retirer du pays, 250 policiers kényans sont en effet partis en début de semaine. Sauf que dans la capitale, l'insécurité persiste face aux gangs à Port-au-Prince. Les critiques fusent à l'égard de cette mission vue par beaucoup comme un échec, Peterson Luxama.
À Port-au-Prince, le départ progressif des soldats kényans suscite frustration et désillusion. Les citoyens ne cachent pas leur mécontentement face au bilan de cette mission. C'est le cas d'Abigail, dans la vingtaine, étudiante en psychologie, pour qui cette mission est un échec.
Pour moi, cette mission n'a produit aucun résultat. Elle n'a pas atteint ses objectifs. Au moment où elle se retire, les gangs contrôlent encore plus de territoire qu'avant. C'est du gaspillage. L'argent a été dépensé en vain.
Constat partagé par d'autres citoyens rencontrés. Pour Casten, étudiante sciences politiques, Kwasi Adelma, ce n'était qu'une mission de plus, sans résultat concret.
Je ne vois pas cette mission régler quoi que ce soit, comme les autres missions qui sont déjà passées. Haïti a beaucoup d'expérience avec ce genre de mission, comme la MINUSTAH. Elles n'ont jamais rien réglé. Pour moi, l'échec de cette mission était prévisible.
Déployée en 2024, la mission multinationale de soutien à la sécurité, dirigée par le Kenya, devait appuyer la police nationale dans la lutte contre les groupes armés. Si certains citoyens parlent d'échec total, d'autres, à l'image de Batisma, frisant la trentaine, préfèrent nuancer, évoquant les défis rencontrés par la mission.
Ils ne connaissaient pas le terrain, ils ne connaissaient pas le nombre de dangers auxquels l'Utah vient faire face. On vient sur un terrain qui est difficile, parce que là, c'est pas un simple gang qui gagne un pays d'Haïti, non. Ce sont des groupes criminels bien montés.
Alors que les Kenyans partent, sans avoir accompli leur mission, d'autres troupes, notamment africaines, s'apprêtent déjà à débarquer en Haïti dans le cadre de la force de répression des gangs. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Les Nations Unies ont proposé hier un plan d'urgence à Cuba pour maintenir le fonctionnement des services essentiels destinés aux personnes les plus vulnérables dans l'île. Une proposition qui prévoit notamment des livraisons de carburant quasiment inexistantes depuis le renforcement de l'embargo par les États-Unis, ce qui asphyxie le pays.
Les États-Unis qui vont scruter de près la réunion de l'OMC qui s'ouvre à Yaoundé aujourd'hui.
14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'est l'une des rares organisations internationales que Donald Trump n'a pas voulu quitter et sur laquelle il s'appuie même pour promouvoir sa politique commerciale agressive, Charlotte Cosset.
Avec son désormais célèbre tableau de tarifs douaniers, le président américain a totalement rebattu les cartes du commerce mondial. Antoine Comon, doctorant spécialiste de l'OMC.
Les tarifs douaniers qui ont été pris par Donald Trump sont évidemment incompatibles avec le droit qui a été mis en place par l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième chose, les accords qui s'en sont suivis. Vous savez, les partenaires commerciaux des États-Unis ont conclu des accords avec les États-Unis pour essayer de modérer les droits de douane appliqués par le président américain. Ces accords-là sont aussi contraires avec le droit de l'OMC. Donc Trump, il n'en a que faire des règles commerciales internationales. Lui, ce qu'il veut, c'est s'assurer que sa balance commerciale soit excédentaire et donc il préfère engager le rapport de force.
L'administration américaine bloque également la nomination de juges au sein de l'organe de règlement des différends. Mais malgré cela, Donald Trump a réinvesti cette enceinte internationale.
La chose qui est curieuse, c'est que l'administration Biden n'avait pas versé ses cotisations obligatoires au budget de l'Organisation mondiale du commerce et l'administration Trump a rattrapé ce retard là où évidemment on ne s'attendait pas à ce que les États-Unis versent leur contribution. C'est quand même signe que les États-Unis, un, ne sont pas prêts de quitter l'OMC, et deux, n'ont pas abandonné complètement la possibilité que l'OMC puisse produire des résultats.
L'OMC restant un espace de dialogue où les États membres peuvent travailler ensemble, même en période difficile, pointe un responsable de l'organisation.
Charlotte Cosset, Meta, la maison mère d'Instagram et YouTube ont fait appel après leur condamnation par un jury américain qui tient les deux plateformes responsables de la dépression d'une jeune Californienne. C'est une première aux États-Unis. Cette Américaine de 20 ans les avait accusés d'avoir alimenté ses idées suicidaires avec des contenus qui l'avaient rendue addicte. Les deux géants du numérique sont tenus de verser 6 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante.
Hier, la justice française appelait à la barre l'un des principaux protagonistes dans l'affaire du financement libyen.
Brice Hortefeux, entendu dans le cadre du procès en appel sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, le ministre délégué aux collectivités territoriales de l'époque, est accusé d'avoir vu en décembre 2005 Abdallah Senoussi, un haut dignitaire libyen condamné par la France pour terrorisme. Claude Guéant était aussi accusé de l'avoir rencontré. En première instance, le tribunal avait estimé que ces rendez-vous visaient à obtenir des fonds pour la campagne, ce qui avait mené à leur condamnation pour association de malfaiteurs ainsi que celle de Nicolas Sarkozy. Hier, Brice Hortefeux a donc de nouveau dû se défendre, Laura Martel.
Jamais Brice Hortefeux n'a voulu rencontrer Abdallah Senoussi, un homme dont à l'époque il ne sait rien et dont le nom n'apparaît même pas dans les fiches à sa disposition, assure-t-il. Vous maintenez avoir été piégé, mais par qui? Dans quel but? Demande le président. Le responsable, pour Brice Hortefeux, c'est Ziad Takieddine. L'intermédiaire l'avait sollicité en octobre 2005 pour l'informer de l'invitation libyenne à venir, mais n'a été impliqué en rien dans la préparation de la visite, si ce n'est pour une formule de politesse, précise Brice Hortefeux, surpris donc de le retrouver à Tripoli en décembre. Takieddine est sur place lors de la visite de Claude Guéant, de Nicolas Sarkozy, puis la vôtre, mais pas pour d'autres ministres. Ça donne l'impression d'une sélection de personnes, relève le président. Presse Hortefeux, lui, est catégorique. Takieddine l'a piégé pour se faire bien voir des Libyens. Mais Sennoussi n'a rien demandé et lui n'a rien sollicité lors de ses 40 minutes durant lesquelles il a été question de la santé de Jacques Chirac et de politique migratoire. Pourquoi alors avoir revu plus tard l'intermédiaire et surtout ne pas avoir parlé à Nicolas Sarkozy de ce piège potentiellement dangereux politiquement pour le ministre et futur candidat à l'Élysée? Pour une raison humaine, dit-il, mécontent et vexé, je n'allais pas le claironner, et surtout une raison rationnelle, il ne s'est rien passé, martèle le prévenu. En première instance, le tribunal avait estimé que Brice Hortefeux et Claude Guéant n'avaient donné aucune explication cohérente et crédible à leur déplacement en Libye.
Récit de Laura Martel.
Et puis un trait d'union musicale entre la France et la Colombie pour refermer ce journal.
Avec le collectif de jazz franco-colombien Combo Effectivo qui dévoile son tout premier projet, un projet éponyme. Lisa Giroldini l'a écouté pour RFI.
Parmi la joyeuse troupe du jeune collectif Combo Effectivo, on trouve la jeune génération du jazz français et des artistes phares de la mouvance néo-tropicale colombienne, dont Karen Nerac au chant et aux percussions et Pelango à la basse.
Es un experimento super interesante porque no sabemos qué va pasar.
C'est une expérience très intéressante parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'on va faire avant de commencer. Tout se crée sur le moment. Si les Colombiens apportent des rythmiques, elles vont être basées sur des rythmes afro-colombiens qui viennent du folklore par exemple, mais la base qu'on va ensuite développer, ça peut être aussi quelques notes de saxophone ou de piano proposées par les Français. On n'a vraiment aucune idée préconçue. Disons que l'étincelle de départ peut venir de tous les côtés et ensuite on ajoute tout ce qui nous traverse l'esprit et le cœur à ce moment-là.
C'est ce que nous voulons faire tous à l'heure du moment.
Comme le chanteur colombien Carlos Vives, pionnier de la fusion entre cumbia et vallenato avec de la pop et du rock il y a plus de 30 ans, Combo Effectivo explore et cherche de nouvelles sonorités. Une fusion réussie entre les structures et la finesse du jazz européen et le groove puissant des fanfares colombiennes.
Lisa Giroldini
et Paul Lancin-Spinelli pour le journal. Merci à vous. RFI, 6h14 à Paris, Madrid, Kinshasa, c'est le début de notre matinée ensemble jusqu'à 9h. Aujourd'hui, bientôt un mois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et les frappes continuent ces dernières heures. On s'interroge toujours ce matin sur ces négociations annoncées avec l'Iran par le président américain, mais fermement niées par Téhéran. Les ennemis de l'Iran s'apprêteraient même à occuper une de ces îles dans le Golfe, selon le chef du Parlement iranien. Qu'en est-il de cette menace de nouveaux fronts dans la région du Golfe d'Aden? Voilà encore beaucoup de flou ce matin. On poursuit aussi notre analyse de la paralysie presque totale du détroit d'Ormuz dans nos différents rendez-vous de la matinée. Cette guerre, vous en parlez aussi aujourd'hui avec votre invité à 7h20, Arnaud Pontus. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger.
Oui, sa circonscription couvre notamment Israël, où elle vient de passer plusieurs semaines. Elle était sur place le 28 février lors du déclenchement des frappes. Elle nous dira comment elle perçoit cette guerre, comment elle envisage la suite, alors que les députés français ont débattu hier à l'Assemblée du conflit au Moyen-Orient. Caroline Yadan est aussi en première ligne pour lutter contre ce qu'elle appelle les nouvelles formes d'antisémitisme. Elle porte une proposition de loi controversée, un texte qui sera examiné à l'Assemblée mi-avril.
L'on suit une autre route que... Je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas. Cela ne me regarde pas. Je ne ferai pourtant de tort à personne.
On est tous nuls, les ressources s'épuisent, mais il en faudrait toujours plus on commence à réagir seulement quand le climat nous bouscule. Ceux qui trollent comme un slip reniflent la merde des autres. Bouge jamais d'un cil, mais t'incites à faire des choses d'imbéciles. Si ces types s'avèrent tes sauces, n'hésite pas à les lâcher. Si tu veux tes rêves, c'est sauce.
Ça, passer ma vie entière là où j'ai fait mes armes. Mais de quoi l'avenir m'empêche, je dois sécher mes larmes. Car faut pas que ma vie m'engraine, ça fait des dégâts. Quand les petits trucs viennent gigantesques à se taper des barres. On a du mal à vivre en pêlée, vous inquiétez pas. On finit par l'alimenter, y'a un paquet des faves. Et un tas de navires hantés, je dois pas gayer grave. Mais c'est pas sûr que j'arrive entier. Je suis dans ma bulle d'eau fraîche, quand ça pue l'oseille. Et que là où y'a du soleil, on abat les forêts au bulldozer. Pour une détruite, t'en as une offerte, on ne laisse que des ruines. Et on s'intéresse plus aux faibles. Ça va des histoires bagarres ou à cause d'une patate. Ça part en garde et au placard. Parce que des gars parlent, disent des pas qu'à vous pas capable. Mais blague à part, pour tuer avec un coup, il n'y a qu'un pas. Comme ce jeune qui trouve la mort sur un gros coup à l'arraché. Presque avec un tocou sous la gorge, parce qu'il y avait beaucoup à se partager. Dans la rue la vie est trop courte, faut pas croire que la route tourne comme un oula. T'as fumé ton premier joint, au but ta première bière. Parce que tu disais que c'était rien, maintenant t'espères que chaque cul sera la dernière. On sait qu'on peut mourir demain, mais on préfère pas voir ce qui se cache derrière. Ou à travers le voile de lin, comme dans l'affaire Kervière. Passer ma vie entière là où j'ai fait mes armes. Mais de quoi l'avenir m'empêche, je dois sécher mes larmes. Car faut pas que ma vie m'engraine, ça fait des dégâts. Quand les petits trucs viennent gigantesques à se taper des barres. On a du mal à vivre en pêlée, vous inquiétez pas. On finit par l'alimenter, y'a un paquet des faves. Et un tas de navires hantés, je dois pas gayer grave. Mais c'est pas sûr que j'arrive entier.
Je comprends pas l'homme quand il aboie. Au lieu de sentir la poisse, je préfère ceux qui transpirent la joie. Je veux pas remplir l'ardoise ou avancer dans un sens giratoire. Là où s'entraider serait exemplaire, on avance sans freiner, sans gérer la descente aux enfers. Ça s'engrenait déjà avant la naissance de nos ancêtres. On sait d'où viendra le décès et la cause de ce cancer. On se laisse embarquer, tu te dis que c'est la merde et que c'est plus facile de cavaler. Tu veux pas de mes conseils et ma cite aggravée. Tu te fais tourner en rond comme un hamster dans une machine à laver. Tu le sens frère, les temps servent, le temps presse. Y'a peu de tendresse, faut que la violence baisse. Mais comment se taire, quand petit et grand se perd. Cherche à jouer les gangsters.
J'ai pas rêvé de ça, passer ma vie entière là où j'ai fait mes armes. Mais de quoi l'avenir m'empêche, je dois sécher mes larmes. Car faut pas que ma vie m'engraine, ça fait des dégâts. Quand les petits trucs viennent gigantesques à se taper des barres. On a du mal à vivre en pêlée, vous inquiétez pas. On finit par l'alimenter, y'a un paquet des faves. Et un tas de navires hantés, je dois pas gayer grave. Mais c'est pas sûr que j'arrive entier.
Ouais, le monde entier est pris dans ce cercle vicieux, dépendant de ressources ou autres, sans pouvoir en sortir. On est pris dans l'engrenage. Ouais, c'est nous, l'approche d'une vérité.